Vous êtes sur RTL.
7h44, merci d'écouter la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Bonjour Benjamin Griveaux, merci
d'être
sur RTL ce matin, au lendemain d'une journée qui a connu à la fois un remaniement et une allocution présidentielle. Ça n'est pas banal, je ne sais même pas si c'est du déjà vu, d'ailleurs sous la Ve République, mais dans le fond on se pose une question ce matin, comment le pouvoir peut-il retrouver un second souffle quand rien ne change? Surtout pas le cap et à peine l'équipe.
Mais d'abord, c'est heureux que le cap ne change pas tous les 18 mois. On n'a pas l'habitude. En tout cas, c'est la nouvelle pratique à laquelle nous croyons. C'est que le cap qui a été fixé depuis le premier jour de ce quinquennat sera le cap tenu pendant tout le quinquennat. Et que c'est un cap qui repose sur des choses assez simples, mais qui n'ont jamais été vraiment traitées en France.
On y viendra,
la question
mais
de
comment...
la mobilité sociale,
on
la question de l'Europe,
si vous voulez bien.
La question du travail.
Comment est-ce qu'on peut trouver un nouveau souffle, un second souffle, pour employer l'expression que le gouvernement a lui-même utilisée, quand rien ne change?
Mais à nouveau, le souffle, je ne suis pas certain d'ailleurs que c'était tant essoufflé que ça. Il y a un remaniement qui était nécessaire puisqu'il y a eu le départ d'un ministre de l'Intérieur. Et ce remaniement, il vient acter une architecture gouvernementale avec des priorités politiques qui ont été réaffirmées sur question de sécurité et autres. Et puis, des choses comme, par exemple, la question des territoires qui sont centrales pour nous dans la transformation du pays. Le président de la République l'a dit lors de ses vœux aux Français. Souvenez-vous l'an dernier en disant « je ne pourrais pas transformer le pays seul ». Les collectivités locales ont un rôle important à jouer.
D'accord.
Pour ce vieillard Jacqueline Gourault. Et donc,
Benjamin Griveaux, vous souhaitez bien tourner une page, sinon le président ne serait pas venu à la télévision hier
mais
soir.
Mais le président est venu dire quoi hier à la télévision? Il n'a pas parlé du remaniement, ça ne vous aura pas échappé.
Pourquoi il n'en a pas parlé?
Si je peux simplement terminer une seule de mes phrases, Elisabeth Martichoux, mais avec grand plaisir. Mais voilà. Prenons 20 minutes la prochaine fois au lieu de 8, parce que c'est difficile de ne pas répondre aux questions que vous posez.
Vous en avez plus que ça.
Il est venu dire hier soir quoi, le président de la République? Voilà. Un, qu'il entendait les critiques qui sont liées à son parler vrai, il l'a dit, parfois à sa détermination. Mais il est aussi venu rappeler le cap, l'horizon qu'il a fixé depuis le premier jour, rappeler les priorités du gouvernement depuis le premier jour, l'éducation et le travail, pour remettre de la mobilité sociale. La question des nouvelles sécurités, c'est l'assurance chômage, c'est le débat sur les retraites, c'est la question des formations, de la compétence et la question de l'Europe, qui est centrale et dans lequel il prendra toute sa responsabilité dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a un Conseil européen qui débute cet après-midi et qui se tiendra demain, cette fin de semaine. Et puis, c'est cela qu'il est venu dire. Et donc, il n'y a pas de question de savoir est-ce qu'il y a un changement de cap, un changement de priorité. Non, ces priorités-là, nous avons depuis le premier jour. Nous continuerons à les avoir pendant la totalité du quinquennat.
Et effectivement, il est venu hier parler aux Français les yeux dans les yeux et il a davantage parlé d'Europe en évoquant des élections compliqué, en donnant une certaine gravité à son discours, qu'en parlant des difficultés réelles des Français. C'était son choix.
Mais l'Europe, elle est au cœur de la vie des Français. Enfin, qui peut penser sérieusement que l'Europe est un sujet secondaire pour les Français? Dans l'ensemble des politiques publiques que nous conduisons, il y a un morceau d'Europe. Que ça aille du monde agricole, à la question de nos filières industrielles, à la question environnementale, énergétique, l'Europe est partout. Celui qui aujourd'hui mettrait l'Europe de côté, considérait que parce que c'est au-delà de nos frontières, ça ne regarde pas le quotidien des Français, celui-là mentirait aux Français. Ça n'est pas vrai. Regardez ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne avec le Brexit. Les Britanniques l'apprennent à leurs dépens, que l'Europe, dans le quotidien, ça change des choses très concrètes quand on passe une frontière, de protection de ses marchés, de questions de sécurité sociale. Ces éléments-là sont
les enjeux du Brexit,
mais bien sûr,
qui ne seraient pas réussis.
Et c'est un élément important. Donc c'est heureux que le président de la République parle d'Europe.
Est-ce qu'il n'y avait pas un enjeu conjoncturel, très immédiat, pour le président de retrouver une forme de proximité avec les Français? Est-ce qu'il n'y avait pas un souci de l'Élysée aussi de renouer ce lien? Et on se demande pourquoi l'avoir fait comme ça?
D'abord, le rôle du président de la République n'est pas d'être dans l'immédiateté, mais d'être dans le temps long. Et deuxièmement, la proximité avec les Français, il l'a à tous ses déplacements. Lorsqu'il a des échanges directs avec eux, ça lui est parfois suffisamment reproché. Bah, en tout cas, il en a fait beaucoup ces dernières semaines. Vous le savez, il va y avoir les commémorations au début du mois de novembre qui vont lui permettre aussi d'aller à la rencontre des Français. Il va poursuivre cet exercice d'aller à la rencontre sans filtre, sans avoir un cordon de policiers autour de lui.
Oui, c'est pas parce qu'il a retenu des maladresses hier qu'il va s'empêcher d'aller faire ce qu'il aime faire manifestement, c'est-à-dire voir les Français.
Et ce que je crois, les Français ont reconnu chez lui comme étant différent de ce qui se faisait avant. différent, à la fois dans la proximité, parfois dans le parler vrai. C'est exact, mais on ne peut pas reprocher à la classe politique française d'avoir fait de la langue de bois, et quand on dit les choses avec un parler vrai et de manière assez franche et directe, le reprocher également, sinon, moi j'en perds mon latin.
Par parenthèse, un mot de la forme, parce que ça a été relevé largement, ça ne vous a pas échappé, Benjamin Griveaux. C'était voulu, cette lumière crépusculaire? C'était voulu?
Écoutez, moi, je m'intéresse au fond, plus qu'à la forme, et en plus, comme on est sur une radio, c'est essentiel, c'est le fond qui compte plus que la forme.
Oui, c'est l'avantage de la radio, c'est qu'on ne se fait pas d'ailleurs parasiter par ça. Mais puisque ça existe, est-ce qu'il y avait un lien? Je vous pose la question sérieusement. Est-ce qu'il y avait un lien entre le fond et la forme, entre la gravité du propos et cette lumière que tout le monde a remarqué et qui a frappé? Voilà, on peut pas
pour
faire
le
comme
coup, je suis sûr d'une chose, c'est que nos auditeurs s'intéressent plus, et je peux en vous en parler des heures, de la taxe d'habitation, de l'augmentation des salaires sur la feuille nette, du prélèvement à la source, de l'ensemble des éléments qui vient impacter leur quotidien, que sur l'éclairage du président de la République lors de son intervention hier.
C'est pas nous qui avons voulu, ni les Français d'ailleurs, voulu cette mise en scène.
Mais je suis sûr d'une chose, c'est que les Français sont heureux des questions liées à la taxe.
Si c'était voulu.
Mais je n'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que vos auditeurs sont plus intéressés par la taxe d'habitation, par le complément mode de garde, par l'allocation adulte handicapé qui augmente, par les questions budgétaires, bref, par ce qui va vraiment changer leur quotidien, plutôt que sur l'éclairage sombre ou pas du président de la République hier soir.
Et en un mot, quel est le message du remaniement annoncé hier?
En un mot, c'est des personnalités. Ce sont des personnalités compétentes là où nous avons des besoins qui ont été identifiés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la cohésion des territoires, sur la question du service national universel dont le président a souhaité dédier un secrétaire d'État à plein temps, parce que ça fait partie de la reconquête de notre citoyenneté, du vivre ensemble. Et ça, c'est un élément important. Et c'est aussi l'élargissement et la densification de notre socle politique avec des personnalités qui viennent d'agir, comme Franck Riester, ou qui viennent de la gauche, comme Didier Guillaume. Donc vous le voyez, ce sont à la fois des gens compétents, et c'est pour ça que ça prend du temps. Et on assume d'avoir pris le temps, parce que l'objectif, c'est de mettre les meilleurs au poste qu'ils occupent aujourd'hui, et puis aussi d'élargissement de notre base politique.
Alors Jean-Luc Mélenchon a quasi éclipsé le remaniement hier. C'est son style, on lui reconnaît un sens de la théâtralité, c'est incontestable. Il l'exerce depuis longtemps. Il a réussi son coup hier en dénonçant un scandale, en l'occurrence les perquisitions à la fois chez lui et au parti France Insoumise.
Écoutez, il en a fait un coup, et donc moi je trouve que Jean-Luc Mélenchon, il est républicain quand ça l'arrange. Il est sous le coup de deux enquêtes préliminaires qui portent sur détournement de fonds publics et sur le financement illicite d'un parti politique. Il a tourné en ridicule une procédure judiciaire, et les magistrats, quand on a aspiré à être président de la République, à occuper les plus hautes fonctions, à être en tant que tel garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, je trouve cela pour le moins étrange.
Lui, il accuse la justice de se mettre en scène aussi. Hein.
Mais enfin, c'est pas la justice qui a...
politique.
C'est pas la justice... Enfin, très franchement, il a les mêmes arguments que Marine Le Pen. Donc ça devrait commencer à l'interroger, Jean-Luc Mélenchon, en permanence, de reprendre les mêmes arguments que Madame Le Pen. Il est inadmissible en France de mettre en cause l'indépendance de l'autorité judiciaire. Inadmissible. On n'est pas à Caracas, on n'est pas au Venezuela, même si je sais qu'il a une fascination pour ce pays et pour la manière dont l'état de droit est réglé au Venezuela. Ici, on est en France. L'indépendance de la justice, elle est totale.
Les élus RN qui applaudissent la diatribe enflammée de Jean-Luc Mélenchon hier dans l'hémicycle.
À nouveau, ça devrait l'interroger de se faire applaudir par les députés du Rassemblement National, anciennement Front National, qui n'ont changé que le nom et qui ont gardé le fond.
Anne Hidalgo a annoncé le week-end dernier qu'elle ouvrait une partie des salles de l'hôtel de ville de Paris à des SDF femmes. Générosité que vous saluez.
Toute initiative qui permet de mettre à l'abri des personnes en grande difficulté, qu'elles soient des femmes, des enfants ou des hommes d'ailleurs, est une bonne initiative. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on ne se limite pas à traiter les symptômes, et qui sont ces personnes qu'on voit vivre dans la rue de manière dramatique, comment on s'attaque aux causes qui font que vous avez des gens qui perdent tout, se retrouvent à la rue sans rien. Et donc moi, ce qui est l'absolue nécessité, et ce à quoi c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les causes du mal m'intéressent au moins autant que les symptômes. Et que les causes du mal, c'est la question de l'éducation, c'est la question du logement, c'est la question de la grande pauvreté. Ce sont ces sujets-là que le gouvernement traite depuis le premier jour. C'est le cap qui a été fixé, c'est le cap auquel nous nous tiendrons.
Vous avez souligné tout à l'heure le souci du gouvernement de renouer avec les territoires à travers la nomination, la promotion même de Jacqueline Gourault au gouvernement. Or, est venu percuter cette initiative la semaine dernière, Balance ton maire, qui est effectivement qui a heurté beaucoup d'élus. Il s'agissait de dénoncer les élus qui ont ont augmenté le taux de...
les 6000 maires qui ont augmenté les taxes locales.
Voilà, les taxes locales, et évidemment, amoindrissant l'effet de la baisse de la taxe d'habitation. Est-ce que le gouvernement ne doit pas faire des excuses pour cette initiative ?
Mais d'abord, ça n'est pas une initiative gouvernementale, Elisabeth Martichoux.
C'est donc, une équipe d'élus de La République En Marche.
Ça n'est pas une initiative du gouvernement. Ce que je dis, moi, c'est que d'abord, il y a 30 000 maires qui n'ont pas augmenté la fiscalité locale et que c'est toujours bon de ne pas augmenter les impôts parce que je crois qu'en France, on paye suffisamment d'impôts. Et donc, il y a des maires de toute sensibilité politique, d'ailleurs de gauche, de droite, pas étiquetés, qui ont en responsabilité, refuser d'augmenter leurs impôts locaux. C'est une bonne chose, c'est un signe de bonne gestion. Et moi, ça, je m'en félicite. Mais je ne suis pas, moi, vous savez, un adepte de la délation et de la délation sur les réseaux sociaux. Ça n'est en rien une initiative du gouvernement. Vous savez, nous respectons le travail des élus locaux.
C'est pas votre truc. Vous ne l'auriez pas fait.
Non. Nous respectons, nous, le travail des élus locaux. Nous savons ô combien ce travail-là est difficile. Ce sont eux et souvent les maires qui prennent de plein fouet la crise sociale. Et donc, nous sommes à leur côté pour les accompagner. Mais il faut aussi qu'il y ait une gestion serrée des deniers publics. Parce que quand on s'occupe de l'argent des Français, il faut être précautionneux deux fois.
Quand est-ce que le président Macron va dans l'Aude ?
Je ne sais pas encore lorsqu'il s'y rendra, mais il a dit qu'il s'y rendrait dès que possible. Vous savez qu'il a des obligations européennes cette fin de semaine, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous donner la date, mais il a dit qu'il irait et donc il ira.
Donc ce sera après le Conseil européen qui s'achève vendredi.
Je ne m'occupe pas de l'agenda du président de la République.
C'est votre supposition, en tout cas.
En tout cas, il ira.
Merci Benjamin Griveaux d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Une toute dernière question, Benjamin Griveaux. Quand votre nouvelle secrétaire à l'écologie défend l'huile de palme lorsqu'elle était chez Danone, est-ce que ça pose problème ? On l'a entendu ce matin sur l'antenne d'RTL. Et Yannick Jadot est fou furieux.
Écoutez, Yannick Jadot, il est fou furieux sans doute parce que nous avons au gouvernement des personnalités qui ont exercé une vie professionnelle intense. Et Emmanuelle Wargon, elle a une vie professionnelle remplie. Elle a travaillé chez Danone, vous le rappeliez à l'instant. Elle a avant occupé des très hautes responsabilités dans l'administration française, notamment au ministère des Affaires sociales et de la Santé, que je connais un peu. Et donc, moi, je juge aussi quelqu'un sur la totalité de son parcours.
Elle est secrétaire d'État à l'écologie. Je vous demande juste si ça pose problème qu'elle défende à ce point l'huile de palme.
Mais elle n'a pas défendu l'huile de palme. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de déclaration publique. Et désormais, elle est entièrement tournée vers les objectifs tenus par François de Rugy depuis le premier jour, depuis sa nomination au gouvernement. Et le combat contre l'huile de palme, vous le savez, est un des objectifs calés par le gouvernement. C'est désormais sa feuille de route.
Merci beaucoup, Benjamin Griveaux. L'intégralité de votre entretien avec Elisabeth Martichoux est à retrouver sur le site rtl.fr.